sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Vary.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, il y a 7 nouveautés sur les écrans Manceau. Monsieur Aznavour, Challenger, 4-0, The Killer. Et puis les 3 autres que nous n'avons pas vus, Transformers, Le Commencement, 3 km jusqu'à la fin du monde et Angelo dans la forêt mystérieuse. Pour la programmation musicale, je ne me suis pas trop fatigué, ça sera du Charles Aznavour, du Charles Aznavour, du Charles Aznavour, rien que du Charles Aznavour. Eh ben oui, ça s'appelle Monsieur Aznavour le film, donc c'est un peu logique qu'on écoute du Aznavour. Alors là, j'avais l'embarras du choix pour les titres que l'on entend dans le film Monsieur Aznavour. Et je commence par un titre vraiment emblématique d'Aznavour, c'est Je me voyais déjà, bien sûr.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Je me voyais déjà, Charles Aznavour, et bien entendu, c'est une chanson que l'on entend, et elle est interprétée par Tahar Rahim dans le film, hein. Monsieur Aznavour, c'est au Pâté Quinconce, c'est au Méga CGR, c'est au Colisée, et c'est réalisé par le duo Mehdi Idir et Grand Corps Malade, tous deux réalisateurs, scénaristes et producteurs. Et Grand Corps Malade, en plus, il est acteur. Ils ont à leur actif 2 très bons films auparavant, en 2016, Patient. Vraiment un remarquable film, avec Pablo Poli, et 2019, La vie scolaire, avec Zita Enro. Ils ont aussi réalisé des épisodes d'une série qui s'appelait À nous l'histoire. Pierre, à toi pour nous parler de Monsieur Aznavour.
Durée 2h13, avec Tahar Rahim, Bastien Bouillon et Marie-Julie Baupe. Le synopsis, fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, On disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour. La revue de presse, Ouest France avec Michel Troadec. Ce biopic se regarde avec bonheur, tellement on se retrouve plongé dans une époque à suivre l'ascension d'un artiste qui a gagné le haut de l'affiche. L'Obs avec Isabelle Danel. Pour leur troisième long métrage, après Patient et La vie scolaire, Mehdi Idir et Grand Corps Malade déploient les grands moyens et en font parfois trop en termes de mise en scène façon looping et caméra tournante. Mais leur regard sur l'homme et l'icône Aznavour a le mérite d'être admiratif, sans être hagiographique, et les chansons, dont quelques chefs-d'œuvre, font le reste. Le Parisien avec Catherine Ball, un long métrage riche, émouvant et rythmé. Le Point avec Jean-Luc Wachthausen, les réalisateurs Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont opté pour un récit linéaire, rythmé par ses plus beaux titres. Dans le rôle-titre, Tahar Rahim campe un Aznavour vibrant, une belle performance. Marianne avec Olivier De Bruyne, malgré ses défauts hagiographiques et ses omissions, ce biopic émouvant ne manque pas d'atouts et évoque certains aspects méconnus de la carrière et de la vie de Charles Aznavour. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, c'est aussi bluffant qu'émouvant. Le Monde avec Maroussia Dubreuil, Tahar Rahim incarne de manière fascinante le chanteur dans le biopic de Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Et puis, il y a quand même des gens qui n'ont pas aimé. Je commence par le journal du dimanche. D'une réalisation sans audace, ce fastidieux portrait, qui manque cruellement d'angle et de point de vue, réussit à ne rien nous apprendre. Libération avec Olivier Lam et Didier Perron. Dans un biopic sinistre où s'enchaînent les tubes et les séquences attendues, Grand Corps Malade et Mehdi Idir échouent à restituer le lyrisme du chanteur, dépeint en obsédé de la réussite. Et enfin Télérama avec Marie Sauvion. Une fois ouvert, le robinet à épisodes véridiques ne se referme plus. N'en découle que peu d'émotions, sans parler de la perplexité suscitée par la performance de Tahar Rahim, dont le maquillage et la gestuelle rappellent à chaque plan qu'il est Tahar Rahim imitant Aznavour.
Voilà, là c'est très sévère. Moi je fais partie de ceux qui ont aimé le film. Et comme l'indique son titre, le film c'est un biopic classique consacré à la vie et à la carrière du chanteur. Et donc c'est réalisé par deux réalisateurs qui ne cachent pas leur admiration pour Aznavour. Ça s'appelle Monsieur Aznavour, effectivement. Le film, donc, dans un déroulé chronologique, commence par évoquer l'enfance. Alors, pour moi, c'est sans doute la partie la moins intéressante, quoique nécessaire malgré tout pour comprendre l'homme et son ambition. La moins intéressante, disons aussi sur le plan formel, parce que ça fait craindre même au début, à un moment, un film léché, à la belle image proprette. Mais non, le film va s'améliorer au fur et à mesure, avec même quelques belles idées de mise en scène sur certaines séquences de chansons emblématiques, comme La Bohème, par exemple, où Je me voyais déjà, et puis quelques autres. Là, on a vraiment de très belles séquences avec des idées de mise en scène. Bon, le film déroule ainsi les grands moments de la vie, de la carrière d'Aznavour, son enfance donc, ses débuts avec Pierre Roche, avec lequel il a formé un duo swing, qui le fait remarquer notamment par Édith Piaf, dont il devient une sorte d'homme à tout faire, et qui lui met vraiment le pied à l'étrier. Puis, ce sont les tournées galères, les critiques assassines sur son physique, sa voix, c'est aussi les doutes d'Aznavour face à l'insuccès, puis retournement de situation, sa consécration, son triomphe, et le tout mêlé avec des épisodes de sa vie privée, sa relation pleine d'amour avec ses parents, sa sœur, ses mariages, ses enfants, bref, un tour d'horizon complet qui permet en outre d'écouter donc quelques-uns de ses plus grands succès. Mais le film ne serait pas ce qu'il est sans Tahar Rahim, qui est quasi méconnaissable, qui interprète Aznavour de bout en bout, devenant même de plus en plus convaincant avec l'avancée en âge, par son mimétisme, ses attitudes, sa voix, hein, c'est lui qui chante sur certaines chansons, pas surtout, mais sur certaines chansons. Alors certes, là aussi, au début, on a un petit peu de mal, mais ça devient réellement bluffant pour évoquer le chanteur à partir des années 60. Là, il y a un César ou en tous les cas un minimum de nominations en vue pour Tahar-Rahim. Bref, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Ça devrait connaître un vrai succès populaire, si j'en crois les applaudissements des spectateurs à la fin. C'est quand même assez rare que des gens applaudissent alors que y a ni l'acteur ni le réalisateur dans la salle, comme ça se fait lors des avant-premières. Donc là, les gens avaient applaudi, donc ça veut dire qu'ils ont apprécié, quoi. Hein, on leur demande pas d'applaudir. Donc c'est un bel hommage, respectueux, admiratif de la vie d'un homme dont le destin était loin d'être tracé. Ça ne tombe pas dans la géographie béate, ça montre aussi certains aspects de sa personnalité, des aspects plus sombres, comme son ambition, sa soif de réussite, son égoïsme. N'empêche que même si certains critiques font la fine bouche, moi c'est un film que je recommande sans la moindre restriction, même pour ceux qui ont connu Aznavour de son vivant, et même peut-être surtout pour ceux qui ont connu Aznavour de son vivant. Voilà, Monsieur Aznavour, Pathé Quinconce, Méga CGR et Colisée. Même distribution pour le prochain film, Challenger. Cette fois-ci, c'est toujours Pathé Quinconce, Méga CGR et Colisée. C'est un film français de Varant Soudjian, réalisateur et scénariste né en 78. Auparavant, il avait réalisé toujours avec Alban Ivanov en 2018 Inséparable. Il y avait aussi Ahmed Silla dans le film. 2018, Walter avec Judith Elzain. Et 2021, La Traversée avec Lucien Jean-Baptiste et aussi l'actrice qui est dans le film Challenger. Voilà. Pierre, dis-nous en plus sur Challenger.
Durée 1h35 avec Alban Ivanov, Audrey Pirot.
Voilà, c'est ça.
Et Sozo Maness. Synopsis. Lucas rêve d'être un grand boxeur. Malheureusement, pour l'instant, il n'est qu'amateur et doit se contenter de petits combats foireux. Mais un jour, le destin frappe à sa porte et propulse notre héros au sommet. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier, Ils ont mis Iban, eux.
Oui, mais ça, c'est une faute de frappe.
C'est une faute, oui. Ivan Ivanov, en champion de boxe, on pourrait croire à une blague. Et pourtant, le comédien quadragénaire est épatant dans Challenger de Varant Soudjian. Sa métamorphose physique comme son talent de comédien le rendent crédible en sportif amateur qui va se révéler en véritable lion du ring avec l'aide d'une agente jouée par Audrey Pirot. Le Parisien avec Grégory Plouviez, quatrième collaboration avec son réalisateur fétiche Varant Soudjian, le film remplit sa mission divertissante et apporte en bonus un regard lucide sur le miroir aux alouettes que représentent les réseaux sociaux. Télé 7 jours, divertissante, forte de personnages bien écrits, cette comédie gentiment caustique, emmenée par Alban Ivanov, s'amuse de l'imposture au temps des réseaux sociaux, du sport business et décroche quelques droites bienvenues à notre époque formidable où la notoriété est pour beaucoup le nouveau Graal, si fragile et factice. Et enfin première avec Bastien Assier, résultat, une comédie de passionnés de Rocky, lui adressant des clins d'œil très appuyés, efficace, mais qui, en dépit de quelques bons moments, ne surprend pas.
Voilà, donc Challenger, Pathé Quinconce, Colisée, Méga CGR, c'est une comédie sur un scénario quasi copié-collé sur celui du premier Rocky, donc hein, c'est l'histoire de Lucas Sanchez, boxeur amateur, zéro défaite parce que zéro combat, qui du jour au lendemain, à la suite d'un entraînement dégoté par sa copine de lycée qui lui sert aussi de manager, ou de manageuse, je ne sais pas comment on doit dire, contre un challenger au titre de championne d'Europe, lors de cette exhibition en quelque sorte, de cet entraînement, notre Lucas Sanchez met KO d'un seul coup challenger au titre de champion d'Europe. Évidemment, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que ça a été filmé, au point qu'un média spécialisé dans la boxe lance l'idée de lui offrir de combattre contre le champion en titre, un monstre invaincu en 55 combats, tous terminés par KO. Donc alors que sa manageuse y voit l'opportunité de se faire un maximum d'argent en multipliant les sponsors et les partenariats attirés par le buzz de cet improbable combat, lui, il se prend au jeu et au défi qui lui a été lancé de tenir 3 rounds. Donc c'est un film qui commence dans le registre de la pure comédie, qui tient beaucoup beaucoup sur la tchatche d'Alban Ivanov, mais celui-ci paie vraiment, réellement de sa personne. Il est tout à fait crédible finalement, et pas du tout un clown dans ce rôle de boxeur. Ce qui fait qu'on y croit, on y croit. On a alors bien sûr des dialogues savoureux et puis quelques personnages secondaires pittoresques. Et le film s'achève par un vrai combat de boxe qui n'a plus rien de drôle du tout. Donc des personnages attachants, un vrai savoir-faire dans la façon de filmer la boxe. Ce Rocky à la française tient la route. Son seul défaut, justement, c'est de pas beaucoup se démarquer du film avec Stallone. Donc on peut y voir un hommage, alors c'en est un à coup sûr, hein, comme le montrent certaines scènes comme celle de l'entraînement. Ça, c'est carrément du copier de Rocky numéro 1. Mais le choix du registre de la comédie en fait quand même un film un peu mineur, sympathique, à voir quand même, à voir, touchant même par certains aspects de la personnalité du héros. Et ça confirme une fois de plus le talent d'Alban Ivanov. Pierre.
Semaine cinématographique très sportive en ce qui me concerne. Alors, football ou boxe ? Boxe ou football ? En fait, je n'aime vraiment ni l'un ni l'autre, mais par contre, j'aime l'humour. Dans Challenger, c'est la boxe. Donc, j'adore Ivan Ivanov, qui d'ailleurs dans cette histoire tient le film à bout de bras, pour ne pas dire au bout de ses poings, parce que sinon la distribution est plutôt bon, moyenne, sauf peut-être Audrey Pirot qui tient le rôle de sa manageuse. Ah tiens, voilà Meryl en chasse. Vous savez, Madame Riff, pour ceux qui regardent les pubs télé. Alors bon, la boxe c'est violent, parfois très violent, voire la phase finale du film, et là ma sensibilité en a pris un coup quand même. Heureusement, il y a beaucoup d'humour, grâce surtout à l'acteur principal, alors finalement j'ai bien aimé.
Ben oui, moi aussi, donc ça se laisse tout à fait voir, il n'y a pas de souci. Oméga CGR, au Colisée, au Pâté Quinconce. Allez, Charles Aznavour, une chanson en anglais, parce que Charles Aznavour a une carrière internationale, bien entendu. C'est une chanson qu'on a entendue dans des films, je ne sais plus si c'est Coup de foudre à Notting Hill, enfin, de genre de film, comédie romantique anglo-saxonne. C'est, ça s'appelle She. C'est Charles Aznavour sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Magnifique chanson.
She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Survive the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Charles Aznavour, She, en français c'est Tous les visages de l'amour, et on entend cette chanson dans le film Monsieur Aznavour. 4-0, c'est le titre du film proposé au Pâté Quinconce et Oméga CGR, réalisé par Fabien Antoniente. Fabien Antoniente, acteur, réalisateur, scénariste, il a à son actif des films quand même des grands succès populaires, peut-être pas le premier, en 92 à la vitesse d'un cheval au galop, peut-être pas non plus en 95 Tom est tout seul avec Florent Pagny et Jean Rochefort, pas non plus avec 97 Grève Partie avec Bruno Solo, Daniel Russo et Vincent Albaz, mais déjà 99 Jet Set avec Lambert Wilson, Bruno Solo, Samuel Le Bihan, et puis en 2001, 3-0, hein, oui, 3-0, avant 4-0, il y avait 3-0 avec Laurent Deutsch, Bruno Solo, Gérard Lanvin, et puis 2003, People, Jet Set numéro 2, avec José Garcia et Rupert Everett. 2006, Le Triomphe Absolu, Camping, avec Fabien Dubosc et Gérard Lanvin. 2008, Disco, avec Fabien Dubosc, Emmanuel Béard, Gérard Depardieu, pardon. 2009, Camping 2, avec Fabien Dubosc et Richard Anconina. 2012, Turf, avec Alain Chabat et Edouard Baird. Et 2015, Camping 3. En 2018, j'avais beaucoup moins apprécié All Inclusive avec Fabien Dubosc et François-Xavier de Maison. Fabien Antoniente a aussi à son actif certain nombre de téléfilms. Pierre, parle-nous de 4-0.
Durée 1h42 avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon et Isabelle Nanty. Le synopsis, Sylvie Colonna, présidente du club de foot des Haricots d'Arpajon, a refait sa vie avec José Pinto. Ensemble, ils tiennent un restaurant portugais à Ponto Combo, le Chirasco, mais les affaires vont mal. Leur fils Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur une pépite, Kidane, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains. Mais d'autres agents rôdent déjà autour. Les Pinto, qui voient en Kidane l'espoir de sortir de la galère, décide d'appeler à la rescousse Alain Colonna, qui vit une retraite tranquille à Tahiti. Mais le football a changé. Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ, l'agent le plus influent du biz, un homme au bras long et à la mauvaise réputation, avec comme objectif de permettre à Kidane d'intégrer le club de ses rêves, le PSG. Alors la revue de presse va être rapide, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été le voir apparemment. Le Parisien, avec Catherine Ball, un film sportif et réjouissant. Le journal du dimanche, 23 ans après 3-0, Fabien Antoniente réalise une comédie à l'humour potache sur les dérives du foot business qui plaira aux amateurs de ballon rond. Le Point, Fabien Antoniente a beau convoquer en chair et en os des héros comme Paul Pogba, Rai, Roland Courbis, Jean-Pierre Papin, Giroud ou encore Jean-Claude Darmon, rien ne fait vraiment décoller ce 4-0 produit avec l'aide du PSG, propriété du Qatar. Les acteurs, eux, font tout leur possible pour sauver les meubles. Et enfin, West France, c'est lourd, poussif et daté.
Voilà, ça se passe au Pâté Quinconce ou au Méga CGR. Manu Pinto rêve de devenir agent de footballeur professionnel. Mais en attendant, eh ben, il travaille dans le restaurant portugais de ses parents. Mais il pense avoir découvert ce qu'on appelle désormais une pépite en la personne d'un jeune garçon qui s'appelle Kidane. Hélas, il n'est pas le seul sur le coup. En effet, il y a aussi un agent, enfin des sbires, je ne sais pas comment on peut dire, d'un agent qui est très célèbre dans le métier, s'appelle DZ. Voilà. Bon, donc on va faire appel à Manu, agent lui-même et retiré des affaires à Tahiti, qui est en quelque sorte l'oncle de Manu. Hein. On ne fait pas appel à Manu, on fait appel à cet oncle. Manu fait appel à cet oncle. Plutôt, c'est la mère de Manu. Je m'embrouille. Ce Colonna, qui est retiré donc des affaires à Tahiti, va lui donner un coup de main grâce à ses connexions dans le milieu et son savoir-faire en matière d'entourloupe. Le mérite de cette comédie, moi j'en vois un seul, c'est de nous faire pénétrer dans les coulisses du monde du sport business, caractérisé par son bling-bling, ses agents magouilleurs et véreux. Le film semble particulièrement bien documenté en la matière, comme en témoignent les innombrables apparitions de joueurs, de journalistes, d'hommes d'influence, du milieu, qui passent une petite oreille dans le film, et qui lui donnent une caution de véracité, on peut dire ça. Mais, hélas, à part ça, cette histoire d'arnaque m'a paru bien nébuleuse, bien compliquée. Bon, c'est vrai que je ne suis pas non plus un familier des pratiques du football professionnel. Heureusement, il y a quand même Gérard Lanvin qui retrouve son rôle du film 3-0 avec sa gouaille naturelle et puis quand même quelques répliques audiardesques. Parce que sinon, le film, moi, je l'ai trouvé assez médiocre dans sa réalisation. Et même, je trouve que ce film s'égare dans certaines facilités scénaristiques. Pierre, tu as vu 4-0?
Oui, alors ce film plutôt drôle tient, je pense, grâce aux pointures du cinéma français que sont Gérard Lanvin, Isabelle Nanty ou encore Didier Bourdon. Pour ces deux derniers, humour garanti. Et puis Gérard Lanvin n'est pas en reste aussi avec des réparties bien ficelées. Alors nous sommes dans le monde du football et son fric en abondance, voire le salaire de certains joueurs, Mais il y a aussi les agents des joueurs qui s'en mettent plein les poches avec parfois des magouilles pas très catholiques. Tout ceci est bien montré dans le film avec la participation de vrais joueurs que je ne connais pas d'ailleurs.
Ah oh, si, Marquinhos, ah, non, je connais pas. Kimpembe, tout
par
le joueur
contre,
du PSG.
Par contre, je connais les vrais ex-entraîneurs que l'on a vus. Bah oui, j'ai quand même reconnu Giroud ou encore Roland Courbis qui jouent leur propre rôle dans le film. Alors oui, j'ai vu ce film pour les principaux acteurs susnommés. Et j'ai ri trois fois. Ah oui, j'ai compté.
Ah.
Oui, bah, je le dis parce que c'est exceptionnel pour moi de rire dans un film. Mm-hmm. Bref, j'ai trouvé ce film plutôt sympathique finalement, qui se laisse regarder.
Voilà, donc c'est proposé par le Pathé Quinconce et le Méga CGR. Le Méga CGR, lui, vous propose The Killer, film interdit moins de 12 ans de John Woo. Alors John Woo, c'est un réalisateur, scénariste, producteur chinois, enfin hongkongais plus précisément, né en 1946, c'est une légende dans le milieu du cinéma. Hein. Il a à son actif depuis 1974 réalisé de très nombreux films inédits et puis on les a découverts ensuite, pas forcément au moment où ils avaient été tournés, quelques années plus tard éventuellement, donc en 1986, Le Syndicat du Crime, en 87 Le Syndicat du Crime 2 et puis en 89 The Killer, et oui le premier... The Killer, parce que ce The Killer-là, le nôtre actuellement, c'est un remake. Alors, The Killer, c'est avec Chow Yun-Fat. En 90, Une balle dans la tête, avec Tolly Leung et Xiu Wai. 92, À toute épreuve. Là, c'est vraiment les cinq films qui ont forgé la légende de John Woo. À tel point que, eh bien, Hollywood lui a fait de l'œil. Et donc, à partir de 93, eh bien, il a tourné pour les Américains. Chasse à l'homme, avec Jean-Claude Van Damme. 96, Broken Arrow, avec John Travolta, Christian Slater. 97, Le remarquable Volte-Face, avec Travolta et Nicolas Cage. 98, Blackjack, avec Dolph Lundgren. 2000, il a droit à un épisode de Mission Impossible, c'était le numéro 2, avec Tom Cruise. 2002, Windtalkers, Les Messagers du Vent, avec Nicolas Cage et Christian Slater. 2003, Paycheck, avec Ben Affleck et Uma Thurman. Et puis ensuite, la filmographie de John Woo commence à plonger. 2008, Les Trois Royaumes. 2012, Le Règne des Assassins. 2019, Manhunt, c'est directement en VOD. Et 2023, Silent Night, directement pour Amazon. Ils reviennent donc sur les écrans, les grands écrans, avec The Killer, un film qui est un remake donc avec Omar Sy, Nathalie Samuel et Sam Worthington. Lors de l'exécution de son dernier contrat, un tueur à gages, en fait c'est pas un, c'est une, provoque la cécité d'une jeune senteuse. Pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme, il accepte un nouveau contrat. C'est pas tout à fait ça en fait, hein, mais bon. Là, je pense que le gars qui a rédigé le synopsis n'a pas vu le film parce que c'est pas pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme qu'il accepte un nouveau contrat. Passons. Le Parisien, Michel Valentin, The Killer, version 2024, constitue plutôt une bonne surprise car John Woo tente de faire du John Woo de la grande époque. Un grand renfort de fusillade intense, d'exaltation de l'honneur et de l'amitié, et en reprenant certains des tics cinématographiques qui ont fait sa renommée et fonctionnent comme des Madeleines de Proust. L'Obs, Nicolas Chalère, à l'image de son casting, cette série B ressemble au nanar cuisiné le producteur Luc Besson dans les années 2000, rehaussé par les brefs éclairs de savoir-faire d'un Woo aux fraises. Et ça s'aggrave avec le journal du dimanche. Mieux vaut revoir l'original. Adrien Combeau dans Les Échos à Paris, le cinéaste hongkongais tente de refaire son film culte avec cette fois Omar Sy. Mauvaise idée. Théo Ribeton, Les Inrecuptibles. Le remake par John Woo, son chef-d'œuvre, est un bâclage en tout point qui ne mérite pas d'usurper la légende de l'original. Léo Ligini Battista de Libération, le cinéaste hongkongais, tient sa ligne de vieux maître déchu, luttant contre l'oubli avec le remake désespérément vide et transparent de son thriller de 1989. Sylvestre Picard en première, John Woo remake lui-même son plus beau film, 35 ans plus tard et à Paris. Autant arracher le sparadrap d'un seul coup, le résultat est désastreux. The Killer 2024 ressemble à un film Europa Corp des années 2000 où le style de John Woo n'apparaît que par apparition fugace et frustrante. Eh bien, je suis bien d'accord avec les avis négatifs à propos de ce Killer. C'est un remake, donc, vous l'avez compris, par John Woo de son film éponyme qui, à l'époque, avait marqué très fortement les esprits dans sa façon de filmer les gunfights et qui a donc puis était allègrement pompé. Ce film avait tellement marqué que je sais très bien même où je l'ai vu au cinéma le français. Et vous dire, quand même, c'est assez rare qu'on se souvienne de la salle dans laquelle on a vu le film. Le film est transposé à Paris et c'est une femme, elle s'appelle Z, qui est ici le tueur à gages. Elle est engagée pour défendre des malfaisants qu'elle va descendre d'ailleurs, et lors de ce gunfight, eh bien, elle va laisser en vie après le massacre, donc, une jeune femme devenue aveugle à cette occasion. Et elle se sent en quelque sorte coupable de cette cécité de cette jeune femme. Alors, c'est le point de départ d'un film mêlant sur fond de trafic de drogue, tueuse à gages et ses commanditaires, flic chargé de l'enquête. Ça ressemble beaucoup, là je suis d'accord avec beaucoup de critiques, ça ressemble beaucoup à ces polars produits naguère par Ropacor et Luc Besson, avec Héroïne qui se sort de tous les chausse-trappes qui lui sont tendues. C'est très physique, la violence, gunfight, baston est très chorégraphié, mais la magie n'opère plus vraiment. John Woo saute au site, bien sûr, par exemple les envolées de colombes au moment des gunfights, les plongeons avec les armes à la main, ça c'est sa patte en quelque sorte, c'est ce qu'il avait fait émerger et sortir du lot. Et là, donc ça et là, on retrouve cette patte, notamment dans la dernière séquence d'action, mais on retrouve aussi des thèmes de prédilection du maître, comme le sens de l'honneur, le souci de repentance, mais il n'y a plus rien de novateur dans ce film par rapport à l'original, et la déception l'emporte. Alors peut-être parce que justement l'opus original avait été si novateur dans l'origine du film d'action. Bref, il manque quelque chose, et quand je dis quelque chose, c'est fait beaucoup de choses. Alors il y a très peu de séances en VO, moi je ne l'ai pas eu en VO, mais c'est pas très rare parce que beaucoup d'acteurs sont français. Omar Sy, il se double lui-même, mais il n'y a pas que lui. C'est totalement évitable. Si vous voulez voir The Killer, le vrai, c'est celui de 89, ça doit se trouver certainement en DVD ou dans les plateformes de streaming. Voilà, ça s'appelle The Killer. Autre film de la fin de semaine, Transformers, le commencement, c'est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. C'est un film de Josh Cooley, c'est un réalisateur qui avait à son actif Toy Story 4 en 2019. Sinon, auparavant, il avait réalisé deux courts-métrages. Il est américain, scénariste, réalisateur, il est né en 1974. 1h44 pour ce film, Transformers 1, c'est le titre original, donc là, on n'a pas beaucoup changé par rapport au titre anglais. Donc c'est un film d'animation, hein. Cette grande aventure familiale se déroule entièrement sur la planète Cybertron, accompagnée de la pugnace Elita et du drôlissime Bumblebee. Optimus Prime va devoir faire face à son ancien ami Megatron. Alors, ceux qui connaissent Transformers, tout ça, ça leur paraît totalement limpide. Moi, je n'ai vu Transformers, j'ai arrêté au deuxième parce que c'est vraiment pas... je ne suis pas la cible, un vieillard comme moi, ça ne s'intéresse pas à ça. Donc, cette grande aventure familiale se déroule entièrement sur la planète Cybertron, je viens de vous le dire. La revue de presse, eh bien, étonnamment, elle est plutôt positive. Caroline Vier dans 20 minutes, alors qu'on croyait le filon Transformers épuisé, cette fresque animée redonne confiance en son avenir si les films suivants demeurent de cette qualité. Écran large, Antoine Déru. Voilà comment on fait un grand film pour toute la famille. Transformers, le commencement est beau et divertissant, mais cache derrière son écran une charge politique que l'on n'espérait plus de la part de la franchise au cinéma. Renaud Barognan dans Le Parisien. Comment est née la guerre entre les gentils Autobots et les vilains Decepticons ? C'est ce qu'on raconte dans ce film, avec pas mal d'humour, une action incessante et des transformations spectaculaires, en déroulant une ligne graphique mi-futuriste, mi-vieille école. Le point, retour à l'animation réussi donc pour la licence créée par Hasbro, et malgré un fanservice omniprésent qui pourra agacer même les néophytes qui trouveront leur compte, grâce à la générosité de l'action et un puissant message politique. Augustin Pietron Locatelli dans le Télérama, ben oui, même eux, ils ont apprécié. Dans ce film garanti sans humain, à l'animation ambitieuse et souvent impressionnante par son traitement des textures métalliques, la quête de nos deux camarades les mènera à renverser leurs établis et surtout à devenir des personnages enfin bien connus. On roule pour ce salutaire retour aux sources, son humour et son énergie. François Léger dans Ouest France, on aime. Le mélange d'humour cartoonesque et d'un propos très sérieux, inattendu de la part d'une franchise bien éloignée de la politique sur la lutte des classes. On aime moins le design froid des visages des personnages qui ne rend pas forcément hommage à la qualité du doublage et de l'animation. L'Obs, Guillaume Loison, rien à signaler dans cette énième déclinaison fictionnelle des jouets Hasbro, si ce n'est le retour à l'animation, choix pertinent qui colle avec le cœur de cible de la franchise. Mais la mise en scène à l'imaginaire, le film n'est qu'un copier-coller paresseux et brouillon des leviers habituels des studios Pixar. Le seul qui n'a vraiment pas apprécié, c'est Mathieu Macheret dans Le Monde. Libéré de toute référence au réel, ce nouveau volet remonte aux sources de la guerre entre Autobots et Decepticons. Vaguement dystopique, le récit se révèle surtout abracadabrant, pur prétexte au vacarme de tôles froissées et de carrosseries reconfigurées dont la série s'est rendue familière. Bon, vous comprenez bien que ni Pierre ni moi, nous sommes allés voir Transformers le commencement. Nous ne faisons pas partie de la cible, nous sommes des vieillards. Et donc, c'est pas pour nous ce genre de film. C'est quand même possible de le voir au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Allez, on revient à Charles Aznavour. C'est bon pour les vieux. Aznavour, alors un titre emblématique, La Bohème sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Un très beau passage dans le film. Très bien filmé, très originalement filmé.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous.
Un des titres mythiques de Charles Aznavour, La Bohème, et on l'entend interprété par Taha Rahim dans le film Monsieur Aznavour. Alors vous allez me dire, mais Ils sont fermés, le cinéaste, on n'a pas de film. Bah, déjà, le cinéaste, ils sont très occupés avec Graine d'Image Junior.
Oui.
Et puis, les 20 ans, l'anniversaire des 20 ans, donc ils ont sorti beaucoup de films pour les enfants. Et ils proposent également encore quelques films pour les fameux 20 ans des cinéastes. Mais ils ont quand même aussi sorti cette semaine 3 km jusqu'à la fin du monde. C'est un film roumain. Son réalisateur, Emmanuel Parvu. C'est le premier long métrage distribué en salle, car auparavant, il avait réalisé des films distribué sur Netflix ou en VOD. Le film 3 km jusqu'à la fin du monde dure 1h45. Adi, 17 ans, passe l'été dans son village natal, niché dans le delta du Danube. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé. Ses parents ne le regardent plus comme avant. Et l'apparente quiétude du village commence à se fissurer. Donc, le film proposé, je le répète, au cinéaste, avec 2 séances par jour. Qu'en pense la presse? Eh bien, Eric Neuf dans Le Figaro, le film du réalisateur roumain, relate l'histoire banale d'une agression et ses conséquences avec finesse. Baptiste Thion dans Le Journal du Dimanche, dans un décor magnifique, cette minutieuse et patiente exploration, pointant une intolérance entretenue, joue sur les contrastes pour renforcer son propos, avec une caméra souvent fixe qui s'intéresse davantage aux habitants du village qu'au ressenti de la victime. Cette approche distanciée n'empêche pas le malaise d'imprégner un drame aussi beau qu'oppressant. Catherine Ball dans Le Parisien, un film brillamment réalisé et très émouvant. Marie Sauvion dans Télérama, en Roumanie, un jeune homme est vu embrassant un touriste. Il cristallisera toutes les aigreurs d'une communauté scrutée à travers une mise en scène d'une intelligence remarquable. Aurélien Alain dans Cinématiseur, l'intention est inattaquable, mais le geste de cinéma manque de singularité et au final d'impact. Le monde, toute une société où chacun tient son rôle comme il imagine qu'il se doit de le faire, il conspire à cacher une vérité très tôt découverte dans le récit. Comme venu d'un autre monde, l'arrivée inopinée des services sociaux de l'État, appelée à l'aide par le jeune homme, relancera pour quelque temps une intrigue qui a tendance à tourner en rond. C'est bien l'avis de Thomas Borès dans Première. On croit un temps que le film va s'engouffrer dans la farce. Par vous, préfère ménager un suspense sur l'émancipation possible de son jeune héros. Un dernier regard vers son visage gonflé, reflet de la honte de tout un pays, et le héros peut sortir du cadre, moins. Voilà, ça, moins, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le critique Thomas Borès. Nous n'avons pas vu 3 km jusqu'à la fin du monde. Voilà. Angelo dans la forêt mystérieuse. Angelo dans la forêt mystérieuse, c'est un film d'animation, et ce film d'animation est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Je regarde s'il est proposé aussi au Colisée, ben non, j'ai pas l'impression. Donc, Pierre, parle-nous d'Angelo dans la forêt mystérieuse. Alors, le réalisateur, c'est Vincent Parrono.
Ils sont deux. Hein.
Et Alexis Ducor.
Voilà,
Alexis Ducor avait réalisé en 2017 Zombellinium, un dessin animé. Mais Vincent Parrono, il est connu parce qu'il avait co-réalisé avec Marjane Satrapi Persepolis en 2007, un très bon film d'animation. Il avait réalisé aussi en 2009 Villemolle 81 et en 2011, co-réalisé avec Marjane Satrapi, ça c'était des films de fiction, Poulet aux prunes avec Mathieu Amalric et Édouard Baird. Et puis en 2020, Hunted, un téléfilm avec Harry Vorthalter. Voilà, Pierre, parle-nous d'Angelo.
Durée 1h21, avec Yolande Moreau, Philippe Catherine et José Garcia pour les voix. Le synopsis, Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu'au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage. Oublié par erreur sur une aire d'autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s'enfonce alors dans un territoire mystérieux, peuplé d'êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l'ogre de la région. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier. Angelo et la forêt mystérieuse est un véritable coup de cœur par sa façon de raconter comment un gamin plein d'imagination se projette dans un monde magique alors qu'il a été oublié sur une aire d'autoroute. L'Obs, avec Xavier Le Herpeur, adapté de la bande dessinée de Winchlus dans la forêt sombre et mystérieuse, cette fable en forme de plaidoyer pour les enfants fragiles mais agiles du ciboulot est portée par une mise en scène co-signée par 2 auteurs aguerris de l'animation qui, comme leur héros, s'affranchissent des limites. Quel brio dans ce feu d'artifice coloré ! Le Parisien avec Renaud Baronian, hyper inventif, très drôle, ce long métrage distille des messages importants aux enfants sur la sauvegarde de l'environnement et sur la transidentité à travers un personnage hilarant d'écureuil génialement doublé par Philippe Catherine. Le point, le résultat est magique et tout public. Le journal du dimanche, même si le scénario s'éparpille un peu, on est séduit par l'originalité, l'onirisme, l'humour et la tendresse de cette fable. Libération avec Marius Chapuis. Peintures animées, maquettes filmées, pixel art, le voyage initiatique d'un gamin qui côtoie des créatures loufoques se révèle être d'une grande éclate d'animation. Et enfin, Télérama par Marion Michel. En 2016, Vincent Paronneau, sous son pseudonyme de dessinateur Winchlus, publiait la bande dessinée dans la forêt sombre et mystérieuse, conte initiatique, grinçant pour enfants ou superbe travail sur les couleurs. Il l'adapte sur grand écran avec humour et quelques trouvailles, mais il gâte le graphisme original avec un design 3D peu séduisant.
Voilà, ça s'appelle Angelo dans la forêt mystérieuse et c'est proposé au Pâté Quinconce et au Méga CGR. Nous n'avons pas vu.
Non.
Allez, avant de nous annoncer des films à l'affiche la semaine prochaine, Aznavour à nouveau, Formi Formidable.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Formi formidable, Charles Aznavour, un titre que l'on entend dans le film ben, Monsieur Aznavour. Allez, passons aux avant-premières. Si vous nous écoutez en direct ce soir à l'avant-première, à 19h30 au Pâté et à 20h45 au Colisée, il y a l'avant-première de Venom, The Last Dance, avec Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor et Juno Temple. Ça sera sans moi parce que moi, voilà. Venom, c'est vraiment pas ma cam.
Bah non plus.
Les autres avant-premières, eh bien, jeudi 31, soirée d'Halloween, eh bien, il y aura au Pâté Quinconce, Omega CGR, à 20h, Hérétique, un film qui sortira en décembre, un film avec un film d'horreur, et étonnamment avec Hugh Grant. Ça peut être intéressant. Un film d'horreur avec Hugh Grant. Et puis après, il y aura, comment s'appelle cette, poupée qui fait peur, là, je sais plus. Ah là là, c'est terrible, j'arrive plus à me rappeler le nom.
L'exorciste, non?
Non, non, la poupée, Annabelle, voilà, Annabelle. Ah, Annabelle. Donc ça sera un peu plus tard à 22h. Mais le matin, vous pouvez aller voir Une nuit aux eaux. Alors, ça sera à 10h30 au Pâté Quinconce et à 11h15 au Méga CGR. Une nuit aux eaux, c'est un film d'animation et ça, ça ne sortira qu'en janvier. Les autres films, la semaine prochaine, il y a des trucs très intéressants. Outre Venom, The Last Dance, il y aura La Palme d'Or de Cannes,
ah oui.
Anora de Sean Baker. Ça, c'est prévu à coup sûr au
cinéaste,
oui. Mais il y aura aussi au Pathé Quinconce, je pense qu'il y aura aussi au Méga CGR. Il y aura sur un fil, le premier film, je crois, en tant que réalisateur de Reda Kateb, c'est peut-être pas inintéressant, L'art d'être heureux de Stéphane Liberski avec Benoît Poulvord, Gustave Kervern, Camille Cotin, et puis le dernier Clint Eastwood, oui. Juré numéro 2. Voilà, là aussi, ça sera au cinéaste. Voilà, ben donc, ça fait pas forcément beaucoup de films. Je pense qu'il y aura aussi un dessin animé genre Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, mais c'est à peu près tout. Mais nous serons là sur Radio Alpa 107.3 FM, parce
oui.
que ça doit être férié.
C'est là tout ça.
Eh bien, nous serons quand même
mais nous serons là,
sur
oui.
le pont, effectivement. Exactement. Alors donc, en attendant, cette semaine, Pierre vous recommande à coup sûr...
Bah, écoutez, si vous avez envie de vous amuser, moi je conseille les deux, hein, Challenger et 4-0.
Et moi, ben, je vous recommande absolument, eh bien... Challenger, oui, et puis Monsieur Aznavour, oui. sûr, absolument. Et puis éviter The Killer, hein, franchement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la oui. semaine prochaine.
Au revoir.